un excellent début de soirée avec nous, amateurs de sport. Ray, c'est officiel, c'est la chronique Sport Business. Commençons, j'ai envie de commencer par les petites vites, ça te dérange-tu? Plutôt que commencer par le gros steak?
Allons-y, Mario.
Ouais, OK, les petites vites, parce que c'est de l'actualité du jour. Michel Labrec qui dit oui, il y a un scénario, eux autres seraient très, très désireux d'accueillir une classique hivernale, un picane canadien dans un stade olympique sans toit. La fenêtre, si l'échéancier des travaux est respecté, c'est novembre 2022 à mars 2023. Penses-tu que ça marcherait une classique extérieure, plus ou moins, dans un stade pas de toit?
Ben, le concept de classique hivernale, Mario, effectivement, qui en voudrait pas? Ça réussit bien à chaque endroit. C'est mémorable. C'est un peu magique dans les stades style baseball aux États-Unis. Parce qu'on joue au Wrigley Field, on joue au Fenway Park, on joue dans le Gillette Stadium, on joue dans des endroits qui sont mythiques. Alors, stade olympique à Montréal, pas de toit, on serait effectivement en hiver et on pourrait apprécier la beauté de la ville, la beauté du stade pour ce qui reste du stade et un match des Canadiens à l'extérieur dans le froid, c'est vraiment quelque chose de particulier. Alors, pour en avoir vécu de ces matchs-là, Canadiens contre les Oilers en 2003 et puis Pingouins contre les Sabres, la première classique hivernale, je peux dire qu'il y a quelque chose quand même de majestueux. Alors, ça demeure ambitieux comme projet, par exemple.
La question qui pourrait être plate, c'est-à-dire comment se fait que ça n'a pas été fait avant, mais la réponse est probablement dans le fait qu'il y a un toit. Et donc, c'est envisageable juste dans le fait qu'il n'y ait pas de toit en 2022-2023.
Absolument.
C'est juste ça. OK, parfait. C'est réglé. Maintenant, les Eagles en guerre continuelle, devrais-je dire, avec le président Donald Trump, qui décide de canceller l'invitation. Il fait ça avec tout le monde, avec Kim Jong-un, d'ailleurs, avant de changer d'idée. Mais les Eagles n'iront pas à la Maison-Blanche.
Non, et
champion
puis,
du Super Bowl.
On était rendu, Mario, à moins de 10 joueurs des Eagles qui avaient accepté. Sur une équipe, les Eagles qui sont vraiment un peu à l'image de l'Amérique, très diversifiés, une équipe de, si tu me permets l'expression, de col bleu, là, de travailleurs. Philadelphie n'avait jamais gagné le Super Bowl avant. L'an dernier, ils ont vaincu les Patriots. C'était pas un petit accomplissement. Ils sont représentés par un maire de la ville de Philadelphie, M. Kenney, que j'ai entendu ce matin en direct de Philadelphie à CNN, justement s'opposer encore une fois aux politiques de division de Donald Trump. Les Eagles représentent l'Amérique. Et entre eux, ils ont décidé qu'ils ne voulaient rien savoir d'une visite où le président des États-Unis ne représentait pas un peu la façon de penser de toute l'Amérique. Donc, on ne rentrera pas en politique, mais les Warriors l'an dernier ont refusé et Trump les a désinvités. Là, c'est LeBron James aujourd'hui, avec son immense popularité en finale de la NBA puis une énorme plateforme, qui déclare que les Cavaliers ou les Warriors n'iront pas, de toute façon, peu importe qui gagne. Mario, c'est plus très cool d'aller à la Maison-Blanche. Ça va revenir.
Sauf si t'es blanc.
Ça, ouais.
Peut-être.
Ça va revenir une fois qu'il y aura un nouveau président. Et je pense qu'on appréciera de nouveau le privilège d'être là. Mais la Maison-Blanche, c'est pas Donald Trump. L'institut, la maison, c'est le lieu sacré. C'est juste que là, on a un président qui est relativement controversé à l'intérieur pour gérer.
Et il se sert de ça pour continuer de stimuler sa base. Maintenant, la dernière des petites vites avant le gros steak, la XFL, on a annoncé le retour Vince McMahon, WWE, un bon ami Donald Trump d'ailleurs, a annoncé le retour de l'expérience XFL 2.0 en 2020. 8 équipes, 10 semaines de calendrier. Il vient d'embaucher le père d'Andrew Luck, corps arrière des Colts d'Indianapolis, Oliver Luck, ancien carrière de la NFL, mais un haut dirigeant de la NCAA aussi. Donc, c'est une embauche sérieuse.
Oui, oui, oui.
Oliver Luck. Est-ce que tu penses que son XFL 2.0 a des chances de fonctionner?
Ben, pour répondre à la première question, sur la XFL, je pense que oui. Il y a une énorme demande de consommation de football aux États-Unis. Malgré les baisses en popularité de la NFL l'an dernier, ça demeure gigantesque comme business. La NCAA est excessivement populaire, Mario. Il manque de football. Les gens voudraient du football aux États-Unis 12 mois par année. Alors, Oliver Luck était un des hauts dirigeants de la Ligue mondiale, la NFL Europe, dans laquelle j'ai participé dans les débuts des années 90. Je connais Oliver Luck personnellement. Je peux te dire que c'est un avocat de formation. C'est un gars qui a été un directeur des sports à l'Université West Virginia. Il a été à la tête de la NFL Europe et toute la business internationale de la Ligue. Là, récemment, depuis quelques années, il était le responsable de toute la réglementation avec la NCAA, un poste très important, très prestigieux, et ça prend un homme de caractère droit. Alors, c'était le bon gars. Bon, il en a fait des défis sportifs au cours de sa carrière. C'est impressionnant son parcours. Et effectivement, en plus, son garçon, c'est un des joueurs étoiles de la NFL. Mais je pense que c'est le gars parfait pour une position comme ça. Il va rendre la ligue de M. McMahon de la WWE, il va la rendre authentique et sérieuse.
Il va empêcher que McMahon en soit le visage, ouais, d'une certaine façon.
Exactement. Il va la rendre légitime, ouais, parce que c'est un gars sérieux. C'est pas un clown, c'est pas un comédien. M. McMahon, c'est un gars de théâtre, de production, un homme d'affaires important et influent, mais ça demeure un gars que on peut pas associer avec un produit complètement sérieux. Mais là, il a mis le bon gars pour prendre le poste de commissaire. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, avec le support d'NBC et de d'autres réseaux et le besoin en contenu numérique aujourd'hui, Mario, qui est énorme et beaucoup plus important, parce que tout le monde se cherche du contenu. En voilà de plus.
Aux États-Unis, ils regardent la LCF. Fait que, tu sais, eux autres, s'ils peuvent avoir une ligue américaine.
Oui, puis il y a énormément de joueurs qui n'arrivent pas à atteindre la NFL, non, qui sont talentueux et puis qui veulent poursuivre leur carrière de football. Alors, en voilà une opportunité d'avoir une autre ligue secondaire qui peut éventuellement servir de système ferme pour la NFL.
Tout à fait. Alors, il y a une niche pour ce produit-là. On verra. Maintenant, deux dossiers que nous abordons. La F1 à Montréal, Ray. Bon, les chiffres changent d'année en année, mais je pense qu'on peut encore parler d'un événement qui est l'une ou constitue l'une des plus grandes entrées d'argent ici à Montréal en termes d'événements sportifs.
Oui, ça demeure le plus prestigieux des événements d'une journée, d'un week-end. La F1, c'est un cirque mondial. C'est la ligue avec la ATP, le tennis masculin, et la WTA, le tennis féminin. C'est les trois seules ligues, pardon Mario, qui font le tour de la planète, qui sont le même produit d'une ville à l'autre, de l'Asie à l'Amérique, à l'Amérique du Sud, en Europe. Alors, la F1, c'est prestigieux, c'est énorme. L'investissement, valorisé à 8 milliards de dollars. Il y a quelques années, lorsque Liberty Media a acheté ça de Bernie Ecclestone et des autres investisseurs, Mario, c'est plus de 400 millions d'audience télé mondiale totale. C'est énormément de gens qui aiment la F1. Il y a des villes qui sont beaucoup plus populaires. Il y a des nouvelles villes. Et il y a des villes traditionnelles comme Montréal, justement, qui demeurent toujours un peu un défi. Mais ça demeure pour Montréal une chose que le reste du pays n'a pas. Il n'y a pas de Grand Prix de la Formule 1 à Toronto. Ça rend Montréal
ça,
très majeur, oui, comme ville sportive. Il y a eu du grand travail qui a été fait depuis des années de tout le groupe de Normand Legault jusqu'à François Dumontier aujourd'hui pour faire en sorte que Montréal garde.
Avec l'aide des gouvernements aussi, faut le souligner, donc de nous.
Absolument. Et là, on a un Canadien, Lance Stroll, qui est là. Un jeune avec énormément de talent, qui a surmonté beaucoup de difficultés et d'adversité l'an dernier, qui n'a pas malheureusement une grande voiture cette année, mais il a quoi? Il y a moins de 20 ans, Mario, ça demeure un prospect avec un énorme potentiel. Le jour où il va mettre la main sur un bon volant,
on peut pas écarter
moi, j'y crois.
Qu'il puisse être champion du
monde. Absolument. Moi, j'y crois
ça.
Personnellement que ce gars-là peut devenir un compétiteur. Là, aujourd'hui, c'est une opération, une ligue, avec Lewis Hamilton, un héros à Montréal, qui a eu une grande partie de son succès mondial ici à Montréal. Sébastien Vettel, un concurrent de taille. Mercedes et Ferrari, qui dépensent 30, 40, 50 millions de dollars sur les pilotes et 300, 400 millions de dollars en budget d'opération pour leur écurie. C'est énorme comme investissement à la F1. C'est quand même dominé par 2-3 écuries, on est d'accord. Et c'est 2-3 pilotes qui gagnent tout le temps. Mais cette année, en 6...
Tu parles de plafond salarial, j'ai hâte de voir. Mais les gagnants différents, oui, je voulais pas couper ton
élan. Non, mais il y a 6 courses qui ont eu lieu cette année. Vettel en a 2, Hamilton en a 2, Ricciardo en a 2. Alors, déjà, Ricciardo commence à s'insérer, à s'injecter dans le groupe de leaders. Et un jour, on espère qu'il y aura un peu plus de parité. Mais c'est une business d'argent, c'est une business de moyens financiers puis de ressources. Et Ferrari et Mercedes en ont plus que les autres pour le moment. Mais moi, en tout cas, quand je pense à Montréal, ce qui est toujours un peu difficile, là, c'est que tu as 3 jours sur 365 où ton événement a lieu. Tu es un peu à la merci des conditions de météo, du climat économique, de l'état de la F1 en général. Mais je suis très encouragé par ce que j'ai vu avec Liberty Media depuis une année et demie. Ça fait une année d'observation, Mario, et 3-4 mois cette année d'application. Il y a plus de médiatisation, il y a plus de médias sociaux des pilotes, il y a un plus grand libéralisme au niveau de ce que les pilotes peuvent faire avec les communications, les médias. On tente d'américaniser un peu le spectacle de ville en ville. On cherche à établir une course à Miami pour la F1, une deuxième aux États-Unis. Je pense qu'on est dans la bonne direction. On rend le produit plus moderne grâce à l'esprit un peu plus marketing des gens de Liberty Media.
De façon sommaire, aimerais-tu ça comme fan? Puis même au plan business pour la F1, pour le nom Villeneuve que Jacques pilote, le numéro 12 Ferrari de Gilles cette semaine sur le circuit, un petit commentaire vite là-dessus.
Ben, c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose d'historique, de c'est un peu...
Ça n'a pas de prix, là.
Ça n'a pas de prix, un souvenir. Non, non, c'est ça. Ça nous rappelle tellement de grands souvenirs. Comment la famille Villeneuve...
C'est comme la jonction, là.
Ouais, le carrefour, si on veut.
La
croisée de tous ces chemins-là. La famille Villeneuve est historique dans le sport automobile au Canada, faut le dire, de tous les niveaux. Jacques Longue et Jacques Le Total. C'est la totale. Alors, cet impact-là qu'ils ont eu, on fait en sorte que le Québec et Montréal est une destination unique pour la Formule 1.
Vegas, économiquement parlant, la première année de l'expansion, c'est un home run au plan économique, succès de la franchise, valeur de la franchise, Rick?
Oui, absolument. Moi, je regarde les Golden Knights, puis je sais que la saison se termine bientôt. On espère que ça va se poursuivre, qu'ils puissent gagner jeudi, emmener ça à un sixième match, et ainsi de suite. L'investissement total, selon mes calculs, le coût de l'aréna, à peu près 475 millions de dollars canadiens.
Aidé par le gouvernement, Joe?
C'est totalement privé, ça.
Okay.
Totalement privé, le T-Mobile Arena.
Okay. Alors,
c'est Anschutz Entertainment Group, MGM Resorts, qui ont combiné leurs énergies pour avoir un aréna première classe à Vegas. Le coût de la franchise, 500 millions, on a parlé à maintes reprises. Les Golden Knights ont un cap salarial de 75 millions cette année. On parle d'à peu près 1,3 milliard de dollars comme investissement total pour tout ce que ça implique. Le centre de pratique de 40 millions, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les Golden Knights, Mario, avaient 103% de capacité dans leur aréna toute la saison. Ils ont vendu leurs 14 000 billets de saison disponibles pour l'an prochain déjà complets. 100% de renouvellement. Les billets qui restent, c'est des billets très cher. Mario, jeudi soir, le match 5, le billet le moins cher, 893 $, le plus cher, 6000 $. Ça roule encore sur l'or. Ils vont partager de l'argent avec les équipes démunies la prochaine saison.
Pourquoi les billets coûtent plus cher au hockey qu'au basket? J'ai vu ça, t'as communiqué ça sur Twitter.
C'est une très bonne question. C'est parce qu'il y a un effet fatigue dans la NBA. Cavaliers Warriors 438. Il y a l'effet nouveauté à Washington et à Vegas. Ça n'avait jamais eu lieu là.
Tant que le home run de Vegas fasse pas mal paraître toute autre candidature d'expansion, et tu sais que j'ai Québec en tête quand je te dis
sûr.
Ça.
Moi aussi.
Parce que tu sais, il y en a eu des expansions qui étaient moins spectaculaires.
Mais là, on compare une pomme et une orange. Faut faire attention. Québec, c'est Québec. Seattle, ça ressemblera peut-être un peu plus à Vegas.
Ray, un gros merci. Une excellente soirée et à bientôt dans un instant. Le président-directeur général du Parc olympique, Michel Labrecque, en entrevue avec nous.